Dhaka, capitale du Bangladesh. Cette mégalopole immense, cette ville tentaculaire de 15 millions d'habitants, vit chaque jour et chaque nuit au rythme des embouteillages monstres qui en font une des villes les plus bruyantes de la planète et surtout une des plus polluées.
Opora Geo, c'est le nom de ce documentaire réalisé par Bruno Lajara, documentaire qui nous emmène au cœur de l'industrie textile au Bangladesh.
Mais le vrai moteur de développement du pays aujourd'hui, c'est la femme, l'ouvrière textile, celle qui peuple les rues à la pause de midi, bigarrée, colorée, jeune. Elles sont plus de 4 millions à travailler dans les 5000 usines textiles du pays.
Ce documentaire revient notamment sur la catastrophe du Rana Plaza. Le 24 avril 2013, 1138 personnes, en majorité des femmes, ont perdu la vie dans l'effondrement de cet immeuble abritant plusieurs ateliers de confection. Entretien avec Bruno Lajara dans un café arajois, c'était juste après la projection du film, dans le cadre de l'étape arajoise du Tour Alternativa, début août.
Depuis 15 ans, la femme est l'avenir du Bangladesh. Un avenir payé 40 euros par mois.
Comment est venue l'idée de faire un film sur la catastrophe du Rana Plaza?
Justement, en tant que citoyen, en voyant les images et en étant choqué, quoi. Choqué que plus de 1000 ouvrières meurent en allant au travail le matin et en me sentant responsable aussi en tant qu'acheteur de ces vêtements. Et puis aussi parce que j'avais travaillé sur le sujet il y a une quinzaine d'années à travers les ouvrières du Pas-de-Calais. Mais j'ai pas réfléchi, mais ça m'a vraiment bouleversé. Voilà.
Justement, les ouvrières du Pas-de-Calais, on les retrouve au début du documentaire, hein, puisque c'est un peu la suite de l'histoire. Hein, c'est les délocalisations des usines textiles ont beaucoup été dans le nord de la France. Et maintenant, la plupart se retrouvent dans le sud-est de l'Asie, notamment dans ce pays, le Bangladesh. Hein, je crois que c'est 80% de la production mondiale de textiles qui arrive de là-bas.
Oui, il y a 80% et ça représente, en comptant les sous-traitants, ça représente plus de 16 millions de personnes qui travaillent dans le textile aujourd'hui. C'est le numéro 2 après la Chine pour un pays qui est hyper dense au niveau de la population mais qui n'est pas du tout grand en tant que tel. Donc c'est vrai que le début des usines textiles au Bangladesh, c'est vraiment fin des années 90. Donc ça a à peine 15 ans et aujourd'hui c'est l'industrie numéro 1 de ce pays et puis une industrie qui est profondément féminine comme c'était le cas en France il y a quelques années.
Des ouvrières qui travaillent beaucoup, un grand nombre d'heures et 6 jours par semaine, c'est ça ?
Oui, elles travaillent de 8h du matin à 20h le soir en faisant une pause d'une petite heure à midi. Et elles travaillent 6 jours par semaine. La plupart sont des ouvrières qui sont issues de la ruralité, c'est-à-dire comme c'était le cas aussi chez nous, hein, c'est l'emploi féminin très dur dans les rizières, etc. Ça a été un moyen pour elles de partir et de venir gagner leur vie et gagner une émancipation. Donc beaucoup ont laissé leurs enfants élevés par les parents là-bas et rentrent qu'une fois par semaine ou même quelquefois une fois par mois dans leur village d'origine.
Alors pour elles, ce travail, c'est un levier d'émancipation important. J'imagine que c'est le vecteur d'un changement dans la société du Bangladesh.
Oui, c'est une émancipation. Donc c'est un pays musulman laïque avec une femme présidente du Bangladesh. Donc il y a quelque chose, il y a un islam très tolérant au Bangladesh. Mais là aujourd'hui, comme c'est dit dans le film, on voit de plus en plus de femmes dans les rues le soir, ce qui n'était pas le cas avant. On voit des femmes aussi qui peuvent choisir la régulation du nombre d'enfants puisqu'elles travaillent. Donc il y a quelque chose, c'est assez troublant parce qu'il y a un travail comme ça très aliénant et très mal payé, mais il y a aussi le travail féminin qui à chaque fois dans chaque pays permet aux femmes de s'émanciper.
C'est derrière cette palissade métallique que se trouvent les ruines du Rana Plaza, funeste nom de l'usine écroulée le 24 avril 2013. Ici, on entre comme dans un moulin. Pas de sanctuaire comme après le World Trade Center. Une odeur pestilentielle vous agresse dès l'entrée, même un an après. L'odeur des cadavres, encore présent. Ces femmes et ces hommes, sans sépulture, vous fait voyager dans l'horreur absolue. L'homme que nous suivons se nomme Nazbul Huda. Il est journaliste. Il travaille dans une télévision locale proche du Rana Plaza. Il avait été contacté la veille de l'effondrement par les ouvriers qui avaient découvert les fissures dans les murs du bâtiment.
Ça n'est pas vraiment, ça n'est même pas du tout abordé, je pense, dans le documentaire, mais la question de l'impact environnemental de cette industrie textile, hein, elle était déjà polluante avant, et aujourd'hui elle est tout autant, c'est quelque chose de très important là-bas au Bangladesh.
Oui, c'est vraiment ce qui m'a choqué le plus, moi, là-bas, c'est vraiment les désastres qui se passent et qui sont proches d'arriver, c'est-à-dire qu'il y a les désastres humains avec cette catastrophe, et puis c'est la quatrième, hein, le Rana Plaza, il y a eu quand même d'autres usines où des femmes sont mortes brûlées vives. Là, aujourd'hui, moi, ce que j'ai pu voir sur place, c'est les usines qui déversent dans le Gange directement ces produits très polluants, et que derrière l'eau est polluée et l'eau, les gens se lavent directement dans les fleuves, lavent leur linge et puis cultivent le riz aussi qui est la culture numéro un du Bangladesh au niveau de l'agriculture, quoi. Donc il y a vraiment un vrai problème là-dessus.
Alors vous êtes metteur en scène, là pour ce documentaire vous étiez enquêteur, journaliste, comment ça s'est passé pour avoir de l'information là-bas, rencontrer des gens et puis filmer dans les usines, parce que après la catastrophe j'imagine que les usines ont fermé leurs portes aux caméras, aux journalistes.
Oui, alors j'avais j'avais un fixeur là-bas sur place, c'est-à-dire un Bangladais, un artiste d'art contemporain qui travaille avec les journalistes européens et américains qui vont tourner là-bas. Donc il avait déjà pas mal de contacts, donc il m'a pas mal ouvert les portes. Et puis après, on est resté 15 jours là-bas, on s'est laissé plein de possibilités. Par exemple, l'usine au Porajeo qu'on voit, cette espèce de coopérative à la fin, c'est en lisant un article dans le journal le matin que je me suis dit « Ah ouais, il y a ça, le sauveteur !» Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a énormément de sauveteurs du Rana Plaza qui ont fait des dépressions après. Et il y a eu un papier dans le Daily Star, l'équivalent du Monde au Bangladesh. Et donc, on est allé, voilà. On s'est vraiment... On avait un peu bétonné des choses, mais qui ne sont pas faites. Et puis on s'est laissé aller. Et après, on voulait vraiment rentrer dans une usine. Et ce qui s'est passé, c'est que la personne qui a fait la traduction de mes interviews dans le documentaire, qui s'appelle Chitro Shahabuddin, est la fille de Shahabuddin, qui est le plus grand peintre bangladais qui vit à Paris. Et donc, Shahabuddin, c'est un dieu vivant là-bas. Et il était là-bas pendant que j'étais. Je lui ai dit, écoute, je galère, Shahabuddin. Il m'a dit, ah, mais je connais une usine à 300 km, c'est un copain, il a un journal d'art contemporain. Et il a mis 2 heures au téléphone à convaincre le mec et on a pu rentrer dans l'usine. Bon, sachant que son usine était assez clean, et on le voit dans le film, c'était une usine toute neuve et dans des conditions de travail qui étaient proches des conditions de chez nous.
Alors justement, l'autre impact de cette industrie textile, hein, le cœur du sujet, c'est vraiment la sécurité des ouvrières et des ouvriers du Bangladesh. Est-ce que les choses ont changé? Et est-ce que aussi sur les distributeurs européens, il y a eu un impact de la catastrophe et puis de la couverture médiatique qui a suivi?
Oui, il y a eu un impact quand même. Il y a eu cette charte qui a été signée par tous les grands groupes, H&M, Gap, Benetton, Levi's et Auchan, Carrefour, etc. En disant, voilà, plus jamais de Rana Plaza. Ils ont cassé quelques contrats avec les usines les moins clean. Après, là aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se voiler la face. Moi, j'ai bien vu sur place, j'ai réussi à avoir aucune interview d'un acheteur européen, que ce soit Mullier ou autre, même sur place, je les ai appelés en disant voilà, je fais un documentaire, est-ce que vous voulez? Aucun n'a accepté. Ils sont totalement coupés de la réalité du pays. C'est assez choquant de voir que finalement, les gens qui passent commande là-bas sont très très jeunes. Sont souvent des gens qui sortent d'école de commerce ou autre et qui sont envoyés comme ça à faire du chiffre, c'est-à-dire qu'il faut acheter le moins cher et donc vendre le moins cher aussi pour toucher les classes les plus populaires. Ce qui se passe aujourd'hui à travers le textile, c'est que on a fait du discount alimentaire, on fait du discount textile parce qu'il y a une paupérisation de nos populations. Donc là aujourd'hui, malgré leur, tout ce qui est dit, on continue à avoir chez Babou, chez plein de marques, des t-shirts à 2,50 et c'est pas possible que ce soit clean derrière. Ce n'est pas possible que la personne qui a été payée derrière le soit correctement. Donc c'est pour ça que avec Peuple Solidaire, avec les collectifs éthiques sur l'étiquette, avec les mouvements américains Clean Clothes, il faut continuer, nous en tant que consommateurs, à mettre la pression sur ces grands groupes. Et finalement, le fait que la loi de vigilance sur les multinationales ait été adoptée, bien qu'on l'ait pas mal dépouillé du projet de texte original, elle a été adoptée en mars, il faut maintenant qu'elle soit adoptée au Sénat, c'est un premier pas. Cette loi, pour résumer, c'est que une multinationale peut être condamnée si elle, y a un accident qui se passe, même si c'est un sous-traitant, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent.
Sur la route nationale 5, qui mène de Dhaka à Savar, la ville de banlieue où se concentrent les usines textiles, on est frappé par le nombre d'enseignes occidentales qui ont déjà pris leur quartier ici.
On est toujours en compagnie de Bruno Lajara, metteur en scène de la compagnie Vis-à-vis et réalisateur de ce documentaire Opora Geo.
Un mot sur le collectif Éthique sur l'étiquette, c'est ça ?
Oui, alors Éthique sur l'étiquette, c'est un collectif qui existe depuis une douzaine d'années, qui est basé à Paris et qui fait beaucoup d'actions. C'est des activistes d'ONG, comme on peut retrouver des actions de type Greenpeace, etc. Ils ont fait au mois d'avril une action devant Benetton, parce que Benetton n'avait toujours pas payer, indemniser les ouvrières du Rana Plaza. Finalement, quelques mois après, Benetton a payé. Donc elles sont, je dis à elles parce que ce sont des filles qui sont les salariées de ce collectif, très actives très actives sur les réseaux sociaux et elles font beaucoup de pédagogie. Là, sur notre stand, là, on a des documents à la destination des adolescents, on a des campagnes comme ça, ouvrières soldées, où on peut accrocher dans les magasins des fausses étiquettes avec le salaire de l'ouvrière qui a confectionné ce vêtement. Et tout cela est relié à un site. Voilà, il faut continuer à faire de l'information, il faut continuer, nous, en tant que consommateurs, de demander d'où viennent les vêtements, comment ils sont faits, et de se poser ces questions-là. L'enjeu de cette journée aujourd'hui, c'est se poser la question de comment changer un peu notre manière de vivre. Il ne faut pas compter trop sur les politiques, il ne faut pas compter trop sur quelqu'un providentiel qui va changer. Je crois que c'est à nous aujourd'hui de se dire quel monde on veut pour demain.
En même temps, en tant que consommateur, si on veut acheter des vêtements entre guillemets propres, bon, faut quand même s'accrocher, parce que bon, il n'y a pas d'information forcément sur les étiquettes. 80% des textiles qu'on peut acheter sont déjà fabriqués dans le sud de l'Asie. Et puis s'il y a quelques boutiques d'alter-consommation dans la région, bon, les prix sont déjà quand même assez importants, quoi.
Oui, c'est pas évident. C'est vraiment cette disparité qui est importante entre avoir envie de changer les choses et avoir les moyens de les changer aussi économiquement. Moi, je discutais beaucoup avec autour du projet, j'ai rencontré des classes de lycéens, tout ça. Ils disaient « Ouais, mais nous, avec 20 euros, on achète deux t-shirts chez H&M ». Bien sûr. Donc on préfère en avoir deux, et on sait très bien que c'est de la merde et qu'ils vont être jetés quelques mois après. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est une conscience globale et mondiale qui fera qu'on arrivera peut-être... je trouve qu'aujourd'hui, manger bio coûte moins cher qu'il y a 15 ans. Et ben, peut-être que consommer éthique coûtera moins cher si on s'y met tous. C'est une question de marché.
Bruno Lajara, réalisateur du documentaire Opora Geo. Il est aussi conseiller municipal d'opposition à Arras et metteur en scène de la compagnie Vis-à-vis. Alors justement, ce documentaire Opora Geo fait partie intégrante d'un spectacle de Bruno Lajara intitulé « Je ne vois que la rage de ceux qui n'ont plus rien » que vous pourrez voir cette saison à Grenay, à l'excellent espace Ronnie Cooter. Alors c'est pas tout de suite, hein, ça sera le 26 février 2016, mais bon, notez d'ores et déjà cette date sur votre agenda. Petite précision par rapport au documentaire, la voix off que vous avez entendue, c'était celle de Robin Renucci, vous l'aurez peut-être reconnu. Et puis le nom Opora Geo, en fait ça veut dire invincible, c'est le nom d'une coopérative créée pour et par des survivantes de la catastrophe du Rana Plaza, coopérative qui paie de manière équitable et égalitaire ses ouvrières.
Down.